Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est 12h30 pile, bienvenue à tous, bonjour, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. On l'a appris ce matin, un premier cas de variant Omicron a été détecté en métropole. Le profil du patient avec Céline Géraud. On sera également en direct avec Mélina Fachin à Strasbourg, où le plan blanc est déclenché. On sera en direct également avec le professeur Amouyel. Le pape François accepte la démission de l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit a été accusé dans la presse d'avoir entretenu une relation intime avec une femme, ce qu'il a catégoriquement démenti. Lord d'Autriche sera avec nous. 74% de participation au moins à la primaire des Républicains. Qui sera sélectionné pour participer au second tour? On le saura aux alentours de 14h. Les informations d'Alexandre Chauveau. Qui travaille pour élaborer le programme d'Éric Zemmour? Nos informations à 3 jours du grand meeting de Villepinte. Et puis la tendance météo, avec vous Anissa Haddadi, c'est le retour des giboulées. Hein.
Oui, c'est dans le nord-est que le temps est le plus agité aujourd'hui, avec de la pluie, de la neige mêlée, des flocons des 400 mètres. Ailleurs, on a un temps mitigé, avec une alternance de nuages, d'éclaircies et surtout le retour du froid, avec des températures en baisse.
Merci Anissa, et à tout à l'heure pour la météo complète. Europe 1. Ce n'était qu'une question de jour. Le variant Omicron est désormais officiellement présent en métropole. Il vient d'être détecté sur un patient qui revenait du Nigeria. Sa femme est également positive à la Covid, sans que l'on sache s'il s'agit du même variant. Ni l'un ni l'autre n'est vacciné. Hein. Céline Géraud avec nous. Bonjour Céline.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Qu'est-ce qu'on sait de ce couple ?
Alors, c'est un homme âgé, lui, d'une cinquantaine d'années. Il réside en Seine-et-Marne. Il revenait, vous l'avez dit, d'un voyage au Nigeria. Il a été testé à sa descente de l'avion jeudi dernier, non vacciné. Il ne présentait pas de symptômes au moment du test. Sa femme, qui l'accompagnait, également non vaccinée, testée positive, séquençage en cours, pour vérifier s'il s'agit du fameux variant. Les proches de cette personne, eux, aussi non vaccinés, ont tous été testés positifs et placés à l'isolement. Pour mémoire, mardi dernier, le premier cas positif au variant Omicron avait été détecté en France, identifié sur l'île de la Réunion. Cette personne avait fait une escale en Afrique du Sud. Il y a actuellement 13 cas suspects de ce variant sur notre territoire, séquençage en cours. On se focalise, Romain, sur l'Afrique du Sud, où les contaminations explosent. Mais si finalement ce variant venait d'ailleurs, c'est un biologiste lyonnais, Claude-Alexandre Gustave, qui l'explique ce matin dans le journal L'Opinion. Son hypothèse, elle est simple, Omicron pourrait être anglais. Des souches du variant ont été repérées cet été en Europe et notamment en Grande-Bretagne et se seraient ensuite propagées lors de la COP26 via la délégation sud-africaine de retour chez elle ou encore via une délégation anglaise en déplacement au Botswana pour un séminaire à faire à suivre.
Merci beaucoup Céline et cette information qui tombe à l'instant. Un second cas a été détecté dans le Haut-Rhin. Il concerne une femme âgée de 40 à 50 ans et présentant un schéma vaccinal complet, donc une femme vaccinée cette fois. C'est une information de l'ARS du Grand Est. Elle avait été testée, cette femme positive, au retour d'un voyage en Afrique du Sud et placée à l'isolement avant que le séquençage ne révèle donc la nature du variant. Justement, on va partir dans l'Est. Ça commence à se tendre dans les hôpitaux. Certains services de réanimation ne peuvent plus accueillir de nouveaux patients. Après Colmar et Mulhouse hier, le plan blanc a été déclenché ce matin à Strasbourg pour la 3e fois depuis le début de l'épidémie. Mélina Fachin, en direct avec nous de Strasbourg. Bonjour Mélina.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Vous nous dites que les chiffres recommencent à devenir inquiétants, hein ?
Oui, puisqu'en 2 semaines à peine, le nombre de patients Covid a doublé aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Ils sont actuellement plus de 80, dont une vingtaine en réanimation. La situation commence à être difficile à gérer, explique le professeur Emmanuel Andrès, président de la commission médicale d'établissement.
Tous les jours, on a une quinzaine de patients Covid avec des formes relativement sévères qui arrivent aux urgences. Et puis, plus de 200 à 250 patients qui arrivent aux urgences. Les pathologies hivernales, les grippes, les bronchites, tout ce que vous voulez, ils arrivent en masse. Donc, le tout ensemble fait que c'est vraiment difficile.
Et le déclenchement de ce plan blanc va permettre de dispatcher les soignants là où on a le plus besoin d'eux.
On peut effectivement, du coup, beaucoup plus facilement faire changer de service des infirmières. Par exemple, là, on a fermé des lits d'endocrinologie pour en faire des lits d'aval des urgences. Et le plan blanc permet éventuellement de rappeler des gens qui seraient en congé ou en repos.
Alors pour aider ces soignants déjà très fatigués, le professeur Andrés appelle la population à réappliquer les gestes barrières un peu oubliés ces derniers temps et surtout à aller se faire vacciner.
Mélina Fachin en direct de Strasbourg. Merci Mélina, on est en direct avec le professeur Philippe Amouyel. Bonjour professeur.
Bonjour.
Épidémiologiste, professeur de santé publique au CHU de Lille. La situation est tendue dans certains services de réanimation. Est-ce que le variant Omicron, avec ce variant, on n'a pas eu tendance à oublier ces derniers jours qu'il y avait déjà la cinquième vague de variant Delta?
Oui, tout à fait. Hein. Le variant Omicron est un cas plutôt sporadique pour le moment. On va voir comment il évolue en France. Mais ce qui attaque aujourd'hui les hôpitaux français, c'est bien le variant Delta de la cinquième vague. Donc voilà, on est vraiment dedans actuellement.
On est vraiment dedans. 50 000 cas par jour, 10 000 cas quotidiens de plus par semaine. Qu'est-ce qui se profile pour les semaines à venir et notamment pour les fêtes de Noël?
Ce qu'il faut, c'est que le découplage entre augmentation du nombre des cas et surcharge des services de réanimation continue à faire son effet. Le seul problème, c'est qu'il est en train peut-être d'être dépassé par les autres affections. Tous deux, que ce soit le Covid ou que ce soit la grippe, peuvent être bloqués par l'application stricte des mesures barrières telles qu'on l'a fait l'année passée. On n'avait pas de grippe. Et le plan blanc qui a été déclenché dans le Haut-Rhin montre bien qu'on commence à atteindre les limites du système. Donc finalement, on va peut-être faire moins de formes graves grâce à la vaccination en matière de Covid, mais ça n'empêcherait pas quand même une surcharge hospitalière dans des temps qui sont difficiles pour l'hôpital.
Revenons sur ce variant Omicron, si vous le voulez bien, professeur. On en sait un petit peu plus. On semble en savoir un petit peu plus. On voit certains cas. Il n'a pas l'air très virulent, ce variant.
Aujourd'hui, on peut pas le dire parce qu'en fait, il se développe apparemment massivement en Afrique du Sud. Les infos qu'on a d'Afrique du Sud à partir de différents médecins semblent dire que pour l'instant, ils n'ont pas trop de formes graves. Mais c'est très difficile, on n'a pas de chiffres, on n'a pas de calculs statistiques qui permettraient de le confirmer. On regarde également ce que produisent les Israéliens qui ont un certain nombre de cas, qui auraient tendance à montrer, mais alors il n'y a que 5 cas, que la vaccination 3 doses semblerait protéger du variant Omicron. Il faut encore attendre 2 ou 3 semaines d'avoir des chiffres pour pouvoir conclure exactement ce qu'il est plus transmissible et ce qu'il est plus virulent.
Merci beaucoup, professeur Philippe Amouyel. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi, 12h37.
Europe Midi, midi 30, 13h, Romain Desarbres.
12h37, normalement, dans 2 heures, on connaîtra les noms des 2 finalistes de la primaire des Républicains, du Congrès des Républicains. Le second tour débutera demain matin à 8h. La participation est forte, plus de 75%. Alexandre Chauveau avec nous. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Ce qui est fou, c'est qu'on n'a aucune idée, à l'heure qu'il est, des 2 noms qui vont sortir.
Oui, suspense total et pour tout dire, complètement inhabituel. Il faut bien comprendre que dans la grande majorité des scrutins, il y a des bureaux de vote physiques et donc des bureaux tests avec des sondages réalisés à la sortie des urnes, voire des équipes qui font même les poubelles pour tenter de déceler à partir des bulletins jetés les tendances qui émergent. Là, c'est un scrutin par voie électronique, sécurisé par un huissier et personne n'a de remontée, pas même le président du parti, Christian Jacob, qui assistera donc à 14h en même temps que les représentants des candidats au décèlement symbolique de l'urne. Alors ça se fera évidemment par ordinateur. La seule donnée dont dispose le parti, c'est la participation en direct par département. Un suspense qui, pour tout dire, indispose fortement les candidats. C'est une élection vraiment particulière, avoue un membre de l'équipe de Xavier Bertrand. Et même si tous jouent la carte de la sérénité, il faut bien se préparer à toutes les éventualités, car il y aura forcément des déçus, hormis Philippe Juvin, que peu de monde imagine au second tour. Les 4 autres pourraient sortir dans un mouchoir de poche. Une disqualification de Xavier Bertrand ou de Valérie Pécresse, notamment, serait une très grosse désillusion. Celle de Michel Barnier également, car l'ancien commissaire européen a été, on le rappelle, donné favori pendant plusieurs semaines.
Alexandre Chauveau, merci beaucoup Alexandre. 12h39, et au moment où les Républicains votent pour élire leur candidat, on apprend que Nicolas Sarkozy est où ? Il est aux côtés d'Emmanuel Macron à Strasbourg. Jacques Serret sur place à Strasbourg pour Europe 1. Bonjour Jacques.
Bonjour Romain.
Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron rendent hommage ensemble à Valéry Giscard d'Estaing, c'est tout un symbole hein.
Oui, 2 présidents qui sont arrivés ensemble en Alsace, puisque figurez-vous que Nicolas Sarkozy était dans l'avion d'Emmanuel Macron pour venir ici à Strasbourg au Parlement européen. 1 heure de vol ensemble pour ensuite participer à la cérémonie d'hommage consacrée à Valéry Giscard d'Estaing, qui nous a quittés il y a 1 an jour pour jour. Cérémonie à laquelle n'assiste pas François Hollande, indisponible aujourd'hui. Alors Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy côte à côte, vous imaginez bien le signal que ça envoie, pile le jour où on va connaître le résultat du premier tour de la primaire des Républicains. Cela qui plus est pour rendre hommage à VGE, président de centre droit. Alors certes, c'est aussi pour Emmanuel Macron l'occasion d'évoquer en filigrane la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui débutera dans un mois. Mais définitivement, ce déplacement permet surtout pour le locataire de l'Élysée de parasiter la campagne qui se joue à droite.
Merci beaucoup Jacques, il est 12h40, restez bien avec nous sur Europe 1 dans Europe Midi. Dans un instant, le pape François qui accepte la démission de l'archevêque de Paris et puis nos informations sur l'équipe Zemmour à 3 jours du grand meeting de Villepinte. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h43. Le pape François accepte la démission de l'archevêque de Paris. Monseigneur Aupetit, Monseigneur Michel Aupetit a été accusé dans la presse d'avoir entretenu une relation qu'on va qualifier d'intime avec une femme. Ce qu'il a catégoriquement démenti. Laure d'Autriche avec nous. Bonjour Laure.
Bonjour.
C'est Monseigneur Aupetit lui-même qui avait remis sa démission au pape.
Oui, il a remis sa démission au pape la semaine dernière après plusieurs jours de rumeurs concernant sa vie privée. Monseigneur Aupetit a concédé avoir eu un comportement ambigu, il le qualifiait comme ça, avec une femme en 2012, alors qu'il était vicaire général du diocèse de Paris. Il a en effet démenti le fait qu'il s'agissait d'une relation intime ou amoureuse. Il a expliqué qu'une femme s'était manifestée auprès de lui à plusieurs reprises à cette époque. Michel Aupetit a 70 ans, il est archevêque de Paris, il était archevêque de Paris depuis le mois de décembre 2017. Alors qui était au courant de cette affaire ? Le diocèse a précisé que Michel Aupetit avait parlé de cette affaire avec son supérieur direct à l'époque, l'archevêque de Paris, André 23. Un peu plus tard, il a été nommé évêque de Nanterre, puis archevêque de Paris lui-même. Cette annonce arrive dans un contexte où ces derniers temps, certains mettaient aussi en cause la gouvernance de Monseigneur Aupetit au sein du diocèse. Alors aujourd'hui, le pape François accepte donc sa démission. Une annonce qui arrive très rapidement. Le pape a décidé en quelques jours. Dans un communiqué qui vient de nous parvenir, le pape indique qu'il nomme en remplacement à Paris l'actuel archevêque de Marseille, Monseigneur Georges Pontier.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Voilà, Monseigneur Michel Aupetit qui n'est donc plus, alors qu'il est archevêque de Paris.
Europe Midi. Midi 30, 13h, Romain Desarbres.
On est à 3 jours du grand meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. Victor Chabert avec nous. Bonjour Victor.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
C'est vous qui suivez Éric Zemmour pour la rédaction d'Europe 1. Vous nous révélez aujourd'hui qu'une équipe solide travaille au programme du candidat. Hein.
Oui Romain, l'architecte s'appelle Jonathan Nadler, il est banquier d'affaires. C'est lui qui depuis quelques mois a réuni de nombreux profils pour travailler sur ce programme. Il a mis en place 28 pôles thématiques. D'ailleurs, leurs intitulés ressemblent à ceux des ministères, éducation, industrie ou encore souveraineté juridique. Ils font des notes, des analyses et des propositions pour le candidat Zemmour. Dans chaque groupe, il y a des personnes de la société civile, mais aussi des membres de l'administration. Et leur rôle est très important. Ils vérifient que chaque proposition est réalisable d'un point de vue technique. Tous les dimanches soirs, les 28 chefs de pôle se réunissent par visio autour de Jonathan Nadler. Vous voyez, Romain, tout est très organisé. Certains hauts fonctionnaires prennent cependant de gros risques. D'après nos informations, dans cette équipe qui élabore le programme d'Éric Zemmour, il y a des ambassadeurs en poste, en fonction. Alors qu'ils sont soumis à un très strict devoir de réserve, ils pourraient être sanctionnés si leur nom était rendu public. D'autres ne risquent rien parce qu'ils sont en retraite, comme le général de la Chesnée, général 4 étoiles et ancien numéro 2 de l'armée de terre, ou encore l'ancien patron de la DGSE, Pierre Brochand. Le programme complet d'Éric Zemmour sera rendu public début 2022.
Victor Chabert, merci beaucoup Victor. 10% des heures de cours sont perdues pour les élèves de collège et de lycée. C'est beaucoup, hein, 10%. On découvre ce chiffre dans un rapport de la Cour des comptes qui pointe l'absentéisme des profs, des professeurs dans l'éducation nationale. Virginie Riva avec nous. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Ce qui frappe, c'est que ces absences ne sont pas liées à des raisons personnelles, hein.
Oui, effectivement, hein, la proportion d'enseignants absents pour cause de maladie sur une journée est même inférieure à celle des salariés du privé et des autres ministères, explique le rapport. Contrairement donc aux idées reçues, 2/3 des absences sont liées à des obligations de service, comme la formation continue, par exemple, ou bien des réunions pédagogiques, bref, du travail. Mais le problème, c'est qu'avec la crise sanitaire, les familles acceptent de moins en moins ces absences et que tout cela a un coût pour la société, 4 milliards, selon la Cour des comptes, une réalité dont le ministre Jean-Michel Blanquer s'est dit ce matin à notre micro parfaitement conscient.
Nous sommes en réalité d'accord. Les préconisations de la Cour des comptes sont des préconisations que nous avons commencé à mettre en œuvre. Il y a d'abord le fait de ne pas créer les conditions de l'absentéisme. Parfois, que ce soit par la formation continue, qui est indispensable, ou par d'autres éléments d'agenda. Donc on doit diminuer cela. C'est ce que nous avons commencé à faire, par exemple en permettant la formation continue hors temps scolaire. Deuxième chose, quand il y a un remplacement de moins de 2 semaines à faire, que ce soit fait à l'intérieur de l'établissement, si possible par un professeur de la même matière, en heures supplémentaires, éventuellement dans une autre matière, quitte à rattraper dans la matière ultérieurement.
Voilà, et la Cour des comptes pointe en réalité l'insuffisance des outils de l'éducation nationale pour mesurer ce phénomène et pouvoir réagir vite, au plus près du terrain. Là encore, un problème dont le ministre se dit conscient. Il veut que la politique de ressources humaines soit mieux organisée dans la politique de l'offre et de la demande. Au primaire, par exemple, un logiciel de gestion des RH est en cours d'expérimentation. Son entourage rappelle que les effectifs pour gérer toute la politique RH, c'est 400 personnes pour une masse salariale de plus d'1 million d'enseignants. Et puis reste un problème majeur qui est aussi celui de l'attractivité des postes de remplaçants.
Merci beaucoup Virginie Riva. On est en direct avec Sophie Vénétité, secrétaire générale du syndicat de professeurs d'enseignants SNES-FSU. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi. La Cour des comptes propose que les profs se remplacent entre eux. Est-ce que vous accepteriez cette solution quand un professeur est en formation ou qu'il a une réunion pédagogique? Bon, il remplace le collègue et inversement.
Avant de se dire si on va l'accepter, il faut se demander si ça a un intérêt pour les élèves et surtout si ça va leur apporter quelque chose. Très concrètement, cette proposition de la Cour des comptes, ça voudrait dire que, par exemple, cet après-midi, j'apprends que demain, je vais devoir remplacer un de mes collègues absents. Ça veut dire que je découvre en quelques heures une classe qui a avancé dans ses cours différemment des miennes.
Excusez-moi de vous couper, mais là, on parle de réunion de formation, donc ça se prévoit pas du jour au lendemain, j'imagine.
Alors, il y en a qui arrivent parfois une semaine à l'avance. Sur certaines absences, on peut les apprendre quasiment du jour au lendemain. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça apporte quelque chose aux élèves d'organiser en dernière minute un remplacement comme ça en interne? J'entendais Jean-Michel Blanquer qui évoquait même parfois des professeurs d'autres disciplines et qu'on rattraperait plus tard sur la discipline concernée. On voit bien que là, on est toujours très loin de ce qu'il faudrait pour les élèves. Et la Cour des comptes, finalement, elle donne des réponses comptable, c'est son rôle. Nous, on a envie de vous parler de pédagogie et de vous parler des élèves.
Alors, à propos de pédagogie et de parler des élèves, est-ce que on peut pas rallonger un petit peu le temps de travail? Par exemple, les vacances de la Toussaint, elles duraient, vous l'avez peut-être connu, en tout cas moi je l'ai connu, une semaine. Aujourd'hui, c'est 15 jours. Pendant ces 15 jours, est-ce que les professeurs pourraient pas suivre leur formation pendant les vacances, pendant 1 ou 2 jours? Ça serait possible ou pas?
Alors aujourd'hui, c'est une dizaine de jours sur les vacances de la Toussaint. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que on travaille déjà pendant les vacances, puisque je rappelle que selon les chiffres même du ministère, le temps de travail d'un enseignant, c'est 42h53. Donc quand même déjà un chiffre assez élevé. Donc on a des choses à faire pendant les vacances, on a des corrections, des préparations de cours. Donc ça, c'est déjà des choses qu'on fait. Et en rajouter encore plus, ça voudrait dire quand même alourdir toujours plus le temps de travail. Et il ne faut pas oublier que quand on va se former, y compris pendant des heures de cours, c'est aussi dans l'intérêt des élèves. Quand on va se former, par exemple, sur des nouvelles connaissances, sur comment est-ce qu'on va évaluer les élèves, utiliser le numérique, après, c'est pour pouvoir l'utiliser quand on revient devant nos élèves. Donc, c'est pas complètement du temps perdu, loin de là. En tout cas, on le réutilise avec nos élèves.
Non, évidemment. Mais au final, les élèves ont 10% de cours en moins. Et moins les élèves sont face à leurs professeurs, moins ils apprennent. Il n'y a pas besoin de faire d'études de pédagogie pour le savoir. Merci beaucoup, en tout cas, Sophie Vénétité. Merci d'être venue dans Europe Midi pour échanger sur cette information sur laquelle je voulais revenir aujourd'hui. Il est 12h51. Dans un instant, on va parler d'un séisme, en tout cas d'une crise dans le tennis mondial et plus précisément dans le tennis féminin. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h54, l'affaire Peng Shuai secoue le tennis mondial et au-delà. Peng Shuai, c'est cette joueuse de tennis chinoise qui a quasiment disparu depuis près d'un mois après avoir accusé un très haut responsable chinois de l'avoir agressée sexuellement. Axel May avec nous. Bonjour Axel.
Bonjour.
La WTA qui gère le tennis féminin au niveau mondial est la première organisation à prendre une décision radicale. D'autres organisations pourraient-elles lui emboîter le pas? Expliquez-nous.
Ouais, oui, la question c'est de savoir si d'autres organisations vont passer des paroles aux actes et prendre des mesures concrètes, notamment l'ATP, hein, le pendant féminin de la WTA. Le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, dit en tout cas soutenir cette décision de la WTA de ne plus faire pour l'instant de tournois en Chine. Décision courageuse, dit même le Djokovic. Pourquoi courageuse, Romain ? Parce que les sommes en jeu sont considérables. Avant la pandémie, on estime que la moitié des revenus de la WTA provenaient de la Chine. Il y avait notamment eu un contrat XXL conclu en 2018. Alors, ne pouvant décemment pas rester silencieux après cette annonce de la World Tennis Association, Women Tennis Association, le CEO a assuré ce matin qu'il avait pu joindre Peng Shuai. Le patron du comité international olympique, Thomas Barr, avait déjà eu la joueuse chinoise en visio il y a 10 jours, mais désormais, à chaque apparition de l'ex numéro 1 mondial du double, vraie star dans son pays, il y a de forts soupçons de mise en scène du pouvoir chinois. Alors le CEO pourrait-il faire plus pour répondre à votre question initiale, Romain ? Il a tranché, expliquant « Nous utilisons la diplomatie discrète, c'est la manière la plus prometteuse de procéder efficacement dans de telles questions humanitaires. »
Merci beaucoup Axel May.